15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Marion Ruggieri.
Bonjour à tous et merci d'écouter Europe 1 pour un nouveau numéro d'Il n'y en a pas deux comme elle. Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger, si tant est qu'il existe? Pourquoi cette forme d'autisme nous fascine-t-elle tant? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h, alors qu'un livre et un film sortent autour de ce sujet. On y répond avec le philosophe et l'écrivain Joseph Chovanec, qui se décrit volontiers, lui, comme personne avec autisme et qui publie De l'amour en autistant aux éditions Plon. Bonjour Joseph.
Bonjour Marion, bonjour à tout le monde, cher ami.
Et merci d'être avec nous. Nos auditeurs ont l'habitude de vous entendre chez Sophie Larmoyer dans les carnets du monde, hein, le dimanche à 11h40. Et puis nous rejoindra également l'acteur de la comédie française, Benjamin Laverne, à l'affiche du film Le goût des merveilles, qui sort en salle aujourd'hui. Comme d'habitude, on attend vos témoignages sur le sujet. Appelez-nous au 3921, le standard est ouvert. Et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou via Twitter, hashtag P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence par quelques chiffres. 37% des Français pensent à tort que l'autisme est un trouble psychologique. 8000 enfants autistes naissent chaque année en France, ce qui représente une personne sur 150. Les TSA, troubles du spectre autistique, touchent 3 garçons pour une fille. Seuls 10% des adultes atteints d'autisme auraient été correctement diagnostiqués. 80% des enfants atteints d'autisme en France ne sont pas scolarisés. Enfin, alors que l'autisme touche aujourd'hui près de 67 millions de personnes à travers le monde et 600 000 en France, 86% des Français ne considèrent pas l'autisme comme une priorité en matière de recherche. Et vous, savez-vous ce qu'est le syndrome d'Asperger? On écoute vos réactions.
Jamais entendu parler?
Non, pas du tout. C'est un truc de la mémoire.
Oui, ça me dit quelque chose, mais... je sais pas.
C'est comme dans un film, ouais. Comment il s'appelle encore? Rain Man, c'est ça, ouais.
Pour moi, c'était de l'autisme dans Rain Man, donc c'est pour ça que...
C'est un genre d'autisme? Des QI supérieurs, alors. Oui, oui, mais je crois qu'ils en ont parlé sur Europe.
J'en ai entendu parler aux infos, au journal, mais je n'ai aucun souvenir de ce que c'est précisément.
C'est ce qu'on appelle les autistes savants. Alors, c'est quelqu'un qui mémorise absolument, qui est capable de ressortir des dates, des choses comme ça, de faire des aides du calcul mental à la vitesse grand V.
Grosse difficulté d'attention, il n'aime pas du tout les contraintes et les consignes. Mais après, c'est vrai qu'il a une intelligence complètement normale, et même certainement supérieur, mais difficile à atteindre puisqu'il n'a pas de rapport facile avec les gens. Il ne comprend pas trop l'énoncé du problème, il arrive très bien à faire le problème.
Et bizarrement, on devrait en parler un peu plus parce que si vraiment il y a des facultés à développer, pourquoi pas, quoi.
Quelle est la particularité par rapport à l'autisme, de cette forme d'autisme? C'est ça ma question. Moi, je vous repose la question.
Alors Joseph Chovanec, vous êtes sans doute la personne la mieux placée pour nous dire quelle est la particularité de cette forme d'autisme par rapport aux autres autismes. Qu'est-ce que c'est le syndrome d'Asperger, si tant est qu'on puisse le définir ainsi?
Ah, merci Marion pour la question. En fait, le syndrome d'Asperger est un nom un peu savant, hein, qui faisait partie des quelques grandes catégories d'autisme. Aujourd'hui, avec les nouvelles classifications, on ne parle plus que d'autisme en général. Pourquoi? Parce que les enfants autistes, contrairement aux hommes politiques, ils évoluent, quoi. Et donc, ils passaient d'une catégorie d'autisme à l'autre. C'est pour ça que les psychiatres américains ont préféré supprimer les différentes sous-cases, hein, dans l'autisme, on ne parle plus que d'autisme en général.
Alors, est-ce que je peux dire les personnes, les autistes formellement connus autrefois sous le nom d'Asperger, est-ce qu'on peut dire que ce sont des personnes dotées d'une forme d'intelligence supérieure ou en tout cas différente, une autre forme d'intelligence?
Marion, je pense que chaque être humain est doté d'intelligence, une intelligence différente. Hein, chacun est différent et c'est heureux comme ça. Imaginez si le monde était peuplé de clones, hein, l'un était une copie parfaite de l'autre, ça serait à se flinguer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je pense que l'autisme, les gens autistes contribuent à la biodiversité humaine. Et à ce titre, ils font partie un peu de ce qui rend le monde intéressant ou riche. Oui, les gens autistes ont tout à fait une intelligence différente. Et c'est une intelligence dont la société a besoin, quoi. Voyez-vous, sans les gens bizarres, notre société serait particulièrement vraiment rétrograde et particulièrement invivable même.
Je suis bien d'accord avec vous. Quid du cliché alors de cet autiste façon Rain Man qui jongle avec les nombres comme personne? On en parle, il y a d'ailleurs un personnage, on en reparlera dans votre roman, qui est très doué avec les nombres. Dans le film aussi dont on va parler tout à l'heure, on a affaire à un personnage qui calcule extrêmement vite. Tout ça, ce sont des clichés ou ça existe?
Rain Man, le film Rain Man est un très vieux film. À une époque où on ne connaissait vraiment rien à rien sur l'autisme, il a représenté un certain progrès parce qu'enfin on en parlait. Mais je trouve assez choquant qu'aujourd'hui encore on se réfère constamment à ce très très vieux film qui est une fiction et qui finalement ne présente qu'une vision extrêmement déformée des choses.
Alors justement, pardon, je saisis la balle au bond. Vous dites aujourd'hui on connaît beaucoup mieux les diverses formes d'autisme. J'ai vu ce chiffre en préparant l'émission, seuls 10% des adultes sont diagnostiqués. Pourquoi si peu? Et pourquoi parfois si tard, ce qui a été votre cas, je crois?
Oui, alors encore, j'ai eu de la chance dans la malchance, c'est que j'ai été diagnostiqué plus tôt que beaucoup de mes camarades. Je veux dire par là que l'autisme est mal connu, il n'est pas enseigné dans les universités de médecine ou quasiment pas. Le grand public, du moins en France, hein, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais en France ne connaît pas forcément, hélas, le sujet. Et surtout, les enfants autistes, dès le départ dans la vie, sont mis à côté. Hein. Ils sont éliminés de l'école. Ils ne vont pas à l'école, à quelques exceptions près. Voyez-vous, donc les choses ne sont pas en place. Hein. Ça changera, mais ça prendra du temps. Regardez, moi, ce qui me donne toujours espoir, c'est le cas du sida. Hein. On ne connaissait pas du tout. On a fait des efforts. Et au bout de quelques années, ça y est, on a mieux pris en compte cette chose-là. Dans le monde de l'autisme, on en est encore loin, mais petit à petit, on essaye de progresser.
Vous l'avez dit, et on l'a dit aussi, 80% des enfants atteints d'autisme en France ne sont pas scolarisés. C'est un chiffre énorme. Vous-même, vous avez eu beaucoup de difficultés, il me semble, vous en avez parlé, lors de votre scolarité. Vous avez par exemple raconté que vous étiez passé à tabac pendant la récré, etc. Pourquoi, dans ces cas-là, comment dire, les professeurs n'interviennent pas, le système scolaire ne met pas en place, l'école ne vous protège pas,
Marion,
voilà, c'était ma question.
Les professeurs sont de très bonne volonté, je les fréquente et j'ai toujours été très très bien accueilli par les enseignants et professeurs. Le problème, il est à un autre niveau, c'est que ce sont les hautes sphères de l'éducation nationale qui, malgré les promesses depuis des années, ne font rien. Même les choses qui ne coûteraient rien, quoi, ne sont pas faites.
Comme quoi? Par exemple,
diffuser un guide de scolarisation de l'enfant autiste. Ça fait des années que les différents conseillers des ministres me l'ont promis, juré, craché, mais n'ont strictement rien fait. Et on pourrait multiplier les exemples. À cause de cela, les enseignants ne sont pas formés et eux-mêmes sont victimes finalement du problème qu'ils ne savent pas comment faire. Et la bonne volonté ne suffit pas, voyez-vous, malheureusement. Et communiquer avec des gens autistes, c'est assez facile, mais communiquer avec les hautes sphères du ministère de l'Éducation nationale, je vous souhaite beaucoup de courage.
Hein. Ouais, pour vous, il manque d'une décision politique, clairement. S'il y a un manque de pédagogie sur cette maladie, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas une action politique menée en faveur de cette pédagogie.
L'autisme n'est pas une priorité, hélas.
Alors dans un instant, Joseph Chovanec, vous restez avec nous. On va parler d'Amour en autistan, qui est votre nouveau roman. L'amour en autistan, comme vous le dites joliment, c'est juste après la balade amoureuse d'Adèle. Hello, à tout de suite sur Europe 1. Hello.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Et cet après-midi, cette question jusqu'à 16h sur Europe 1. Pourquoi cette forme d'autisme, le syndrome d'Asperger, nous fascine-t-elle?
On y répond avec Joseph Chovanec qui publie « De l'amour en autistan » aux éditions Plomb. Alors l'autistan, cher Joseph, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu cette drôle de planète habitée par les autistes et un peu opaque aux gens dits normaux?
Ah, l'autistan, c'est le pays des gens bizarres, hein, avec le petit stand hein, qui fait penser à l'Asie centrale. Moi, ça me fait rêver. Mais il faut peut-être préciser, vu le climat actuel, que ce n'est pas une cellule terroriste. Hein. Vous voyez, donc l'autistan peut commencer juste à côté de chez nous. Il y a donc des gens bizarres qui peut-être habitent dans l'appartement d'à côté ou la maison d'à côté. Et c'est un peu une balade hein, sur les routes lointaines d'autistan qu'on peut être invité. On s'amuse bien là-bas.
Alors, c'est un roman sur l'amour. Vous dites qu'il y a eu évidemment beaucoup de romans et quel roman fait écrit sur l'amour, mais peu sur l'amour en autistan.
Alors, Marion, en fait, ce n'est pas tout à fait un roman, si j'ose dire.
Alors, on va en parler aussi, ça.
C'est une sorte de petit jeu de briques de Lego. Les histoires que le livre contient sont vraies, mais elles sont assemblées à ma façon, si j'ose dire. Et si le récit peut paraître un peu surprenant, c'est que les personnages eux-mêmes, dans leur vraie vie, hein, sont surprenants. Et je crois parfois, quand je revois dans la vraie vie l'une des personnes qui figure sous pseudonyme dans le roman, je me dis qu'en vrai, ils sont encore plus bizarres que dans le livre.
Alors, parmi ces personnages, il y a Sonia, voilà. Qui jongle avec les chiffres dans une grande université américaine. Il y a Gabriel, qui est un ex-enseignant à Polytechnique, qui lui est devenu, comment dire, un genre de clochard céleste hein, qui pointe à la soupe populaire. Et puis il y a François Régis. Alors lui, c'est un... vous me dites quand ça, l'expression oui. vous choque. Lui, c'est un autiste assimilé, je dirais. C'est ado, il écrivait des dictionnaires de chinois anciens et aujourd'hui, il a toutes les apparences de la normalité. Est-ce que ça vous va?
Mais il a le latin pour langue maternelle, hein. Il ne l'a pas oublié.
Est-ce que ça vous va, ces trois personnages?
Oui, il y a des gens autistes qui, à force, je dirais, d'apprendre des compétences sociales, finissent par pouvoir jouer un rôle, hein, qui, entre guillemets, qui détonne moins, quoi. Et je crois d'ailleurs, c'est pour cette raison-là, comme vous l'avez souligné au début, on a quelque chose comme trois garçons pour une fille. Parce que souvent, les filles autistes dissimulent un peu mieux la chose, ou plutôt on ne les remarque moins. Bon, entre guillemets aussi, on oublie beaucoup l'autisme au féminin. Bon,
alors donc, vous racontez ces trois destins hein, qui se croisent, ces trois destins aux apparences normales, mais où le sentiment amoureux est d'une autre nature. Est-ce que ce sont, voilà, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que ce sont des histoires vues, vécues de votre passé, parce que vous l'évoquez dans le prologue, mais j'ai pas bien compris.
Oui, alors vous voyez les personnages principaux, et il y a cinq personnages principaux en tout, sont des gens de chez nous, hein, donc porteurs d'autisme, et ce sont des gens que j'ai eu la chance de connaître. Ensuite, il a fallu faire un choix un peu douloureux, parce que depuis les quelques 10 ans que je fais office de saltimbanque dans l'autisme, il m'a été donné de rencontrer 1001 personnages vraiment surprenants. Donc il a fallu faire des choix un peu douloureux pour restreindre la sélection, si j'ose dire. Et donc, par exemple, lorsque je parle de Debbie, hein, qui est l'un des personnages et qui est une couturière et antiquaire aujourd'hui, eh bien, donc c'est peut-être celle dont je suis le plus proche dans la vraie vie. Et on peut voir un peu finalement, lorsque je la rencontre à nouveau, à quel point dans la vraie vie elle est encore plus surprenante que ce qui est dit dans le livre. Ce qui ensuite est modifié ou changé, ce sont les prénoms, les détails pour qu'on ne les retrouve pas.
Pourquoi avoir eu envie d'écrire un livre sur ce sujet-là?
Ah, alors, il y a plusieurs raisons. D'une part, parce que ce livre manquait un peu à l'appel. Hein. Quand on nous parle d'autisme, on parle soit de l'enfance, soit des médicaments et autres horreurs. Hein. Donc, ça manquait un peu à l'appel. Aussi, l'aspect un peu de rêve. Hein. Je pense que fondamentalement, l'autisme a de quoi nous faire rêver. Hein. Il y a un aspect onirique hein, dans l'autisme. Cela réenchante le monde, hein, pour le dire comme ça. comme ça. Et puis aussi, pour ma part, c'était une sorte d'envie de raconter des destins ou des vies de certains de mes amis avec autisme, de gens qui ont des vies extraordinaires, mais qui sont particulièrement discrets et pudiques. Hein. Donc, il y a cet élément-là. Et enfin, si vous le permettez, ma part, égoïstement, il y avait un petit défi un peu caché. Comment finalement raconter ces choses-là? Je procède un peu comme dans l'anecdote qui ouvre le livre, un peu comme cet aveugle de naissance qui assume mieux que quiconque décrire la couleur rouge.
Est-ce que c'est pour dire qu'à la base, les personnes autistes ne sont pas vraiment vouées à rencontrer l'amour ?
Non, je ne le dirais pas comme ça. Il y a différentes personnes autistes et je fais un peu partie des éléments, on va dire, rétrograde ou l'anti-modèle, voyez-vous. Donc, bon, pour ma part, hein, qui vit toujours chez mes parents, qui ne suis jamais allé chez le coiffeur et qui n'ai pas le permis, je ne suis pas un modèle, on va dire, de réussite hein, dans le monde de l'autisme ou dans le monde en général. Mais à côté de cela, c'est très intéressant à savoir, il y a une certaine proportion de gens autistes qui vivent en couple. Et je pense même que ces couples-là marchent mieux hein, que des couples non autistiques. C'est tout à fait saisissant, quoi. Voyez. Et donc, c'est un peu cette différence entre les profils, les tempéraments qui m'a aussi poussé à vouloir intégrer plusieurs personnes autistes très différentes.
Y compris des couples mixtes.
Voilà, les couples mixtes. Mais souvent, ensuite, dans la vraie vie, quand une personne autiste vit en couple avec une personne non autiste, la personne non autiste a souvent une particularité. Alors, cela peut être soit un handicap, soit une origine quelconque, souvent japonaise. Hein. Beaucoup de mes amis autistes ont épousé des japonaises.
Et comment vous expliquez ça?
Ah, parce qu'il y a que certaines cultures du monde où la différence, notamment l'autisme, est non seulement mieux acceptée, voire même elle est valorisée. Par exemple, si vous êtes une personne très timide, si vous n'aimez pas regarder l'autre dans les yeux, si vous préférez vous concentrer sur l'ordinateur, enfin que sais-je, hein, alors ça, c'est bien valorisé au Japon.
Alors, dans un instant, on va parler amour avec un acteur du français, Benjamin Laverne, à l'affiche d'une histoire, d'une love story, justement, entre un autiste et une jeune femme jouée par Virginie Efira. C'est juste après le billet de Benjamin Muller. À tout de suite sur Europe 1.
Marion Ruggieri, de 15h à 16h sur Europe 1. Europe 1. 15h, 16h.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Et cet après-midi, on s'intéresse à l'autisme sur Europe 1 avec notamment la sortie de ce film Le goût des merveilles dont on parlera dans un instant avec vos invités Marion Ruggieri.
Mais avant cela, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin.
Bonjour Marion.
Alors, vous nous parlez de ces gens connus au pouvoir dont certains estiment qu'ils pourraient être Asperger. C'est le cas de Mark Zuckerberg, par exemple, ou encore de Vladimir Poutine.
Oui, et au fond, c'est pas très surprenant. On vient de parler du fait que les personnes qui, comme vous, Joseph sont Asperger, sont très intelligentes, ont une capacité de concentration extrême et une rapidité intellectuelle supérieure à la moyenne. Alors Joseph, vous avez dit dans une interview que chaque personne autiste est différente, que chaque Asperger est différent, donc il est bien évidemment impossible de dire que tous les Asperger peuvent inventer le vaccin contre le sida ou créer le futur Google. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se poser la question pour certaines personnalités aux qualités exceptionnelles. De nombreuses personnes se posent la question. Peut-être souhaitent-elles comprendre ce qui peut expliquer le génie. C'est le cas par exemple pour Albert Einstein, Michel-Ange, George Lucas, le papa de Star Wars dont on parle tant ce mercredi, Bill Gates ou de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. D'ailleurs pour Zuckerberg, ceux qui se demandent aux États-Unis s'il est ou non Asperger pointent du doigt qu'il a certes eu une idée de génie en créant Facebook, qu'ensuite il a eu la patience et l'abnégation pour encoder des jours et des semaines pour créer son site et aussi qu'il est, il est vrai, en relative difficulté dans ses relations social. Alors de ce point de vue-là, ça va mieux depuis qu'il est milliardaire, bien sûr. Mais dans le biopic le concernant, sorti en 2010, ce Social Network, on voit bien qu'il n'est pas à l'aise avec les autres, qu'il a du mal à comprendre leurs réactions, en particulier celles des filles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé Facebook à la base, pour pouvoir parler aux filles. Bref, selon certains, il remplit quelques critères. On peut aussi citer le pianiste Glenn Gould ou encore le champion d'échecs Bobby Fischer, qui serait ou pourrait être Asperger. Mais celui dont on a le plus parlé récemment, celui qui serait atteint du syndrome, c'est Vladimir Poutine. Un rapport remis au Pentagone en 2008, suivi d'une étude sur le sujet en 2011, le tout vient d'être publié par le journal USA Today, qui explique que des chercheurs se sont amusés à observer tous les mouvements publics de Poutine. Ils ont analysé Ses expressions, les mouvements de son visage, sur des centaines de vidéos, ils ont aussi enquêté sur son enfance et auraient découvert que Poutine a eu un développement neurologique perturbé pendant son enfance, avec pour conséquence aujourd'hui, évidemment, aucun retard mental, bien au contraire, mais des troubles dans les interactions sociales, dans la communication, dans le comportement, où Poutine serait par exemple capable de se focaliser sur des choses très restreintes et très répétitives. Bref, on a là quasiment la définition du syndrome d'Asperger et la conclusion du rapport, remis donc au Pentagone, c'est que puisque Poutine est Asperger, il faut adapter à ce diagnostic la manière des Américains de dialoguer avec lui, en par exemple privilégiant des lieux calmes pour des rencontres avec Obama et surtout éviter les grands événements mondains avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit, qui désécuriserait Poutine, le rendrait mal à l'aise et donc peu enclin au dialogue constructif. Le porte-parole de Poutine a évidemment démenti, ou mieux, il a refusé de commenter, n'affichant que du mépris pour ce rapport. Mais Joseph, on a envie de savoir, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine puisse être, comme vous, autiste Asperger?
Alors Joseph Chevanec, Poutine Asperger, ça vous paraît crédible? Et après on va revenir sur Mark Zuckerberg.
Ah Marion, je n'ai jamais rencontré Poutine, je n'en sais strictement rien, je ne peux pas me prononcer. Mais à titre personnel et très général, je crois que les hommes politiques ne sont pas autistes. Hein. Ils sont hélas même tout le contraire, hein, parce que pour réussir en politique, il faut être un peu magouilleur. Hein. Vous savez, pour chaque poste d'importance, il y a des centaines de gens qui sont prêts à ramper de Dunkerque à Tamanrasset pour obtenir le poste. Donc il faut être encore plus rusé qu'eux. Et normalement, les gens autistes ne sont pas comme ça. Et au contraire, les gens autistes, même très très doués, même très des gens très très bien à tout égard, se font avoir et sont d'une naïveté terrible. Et je crois d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le livre de l'amour en autistant. Hein. Et c'est un peu ce qu'on oublie souvent. Donc malheureusement, les gens politiques ne sont pas autistes.
Et Mark Zuckerberg, un mot sur Mark Zuckerberg, vous m'avez
regarde,
dit que...
Il y a de Mark, on pourrait parler longuement, hein, mais Mark a épousé il y a quelques années donc, son épouse actuelle, hein, donc, qui est une Américaine d'origine chinoise. Et je me souviens parfaitement, lors de l'annonce du mariage, il y a une déferlante de commentaires racistes sur tout Internet où on disait des choses comme « Quoi ? Il est milliardaire et il a épousé une Chinoise. Pourquoi il n'a pas épousé, entre guillemets, une femme de footballeur ?» quoi. Et ce sont ces moments-là où on se demande finalement où est la normalité dans l'affaire, pour le dire très gentiment et pudiquement. Mais à titre personnel, vous savez, dans la high-tech, hein, on a des gens vraiment extraordinairement bizarres. Hein. Comment s'est faite la Silicon Valley ? Ça n'a pas été créé par un décret gouvernemental. La Silicon Valley, c'était un lieu pour les marginaux. Il y a 40 ou 50 ans, les gens dits bien n'allaient pas à la Silicon Valley. Il y avait des marginaux comme les gens autistes, les gens schizophrènes, etc. Ce sont eux qui ont créé un monde un peu à leur mesure, à leur façon d'exister. Hein. Et sur les grands personnages que vous avez cités, informaticiens, etc., ce ne sont pas des spéculations. Nombre d'entre eux ont été diagnostiqués en bonne et due forme, si j'ose dire. Et dans certains lieux de la Silicon Valley, quand vous n'êtes pas autiste, vous êtes anormal, hein, si j'ose dire. Il y a quelques années, j'avais été à Dublin, un colloque hein, sur l'informatique et les nouvelles technologies, et il y avait les types qui ont fait un peu l'histoire de l'informatique. Il y avait le monsieur qui avait envoyé le premier mail de l'histoire, vous voyez ce type de personnage. Mais ils étaient tous cinglés hein, quand vous les regardiez, tous fous, alliés. Eh bien, on a besoin de ces gens-là.
Merci, merci Joseph, merci Benjamin.
Merci Marion.
Le temps, ah non, mais vous restez encore avec nous un tout petit peu, le temps d'écouter Nathan de Calogero et on continue de parler d'amour en autistant avec l'écrivain Joseph Chevanec, donc, et le comédien Benjamin Laverne, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 15h, 16h,
il n'y en a pas deux comme elle.
Et jusqu'à 16h sur Europe 1, Marion Ruggieri, vous avez deux invités aujourd'hui pour répondre à cette question, pourquoi la forme d'autisme, le syndrome d'Asperger, nous fascine tant?
On y répond avec Joseph Chevanec qui publie De l'amour en autistant aux éditions Plon et nous a rejoint l'acteur de la comédie française Benjamin Laverne à l'affiche du film Le goût des merveilles réalisé par Éric Besnard et qui sort en salle aujourd'hui même. Bonjour.
Bonjour.
Je vous ai vu froncer les sourcils, j'ai mal prononcé un nom.
C'est Besnard, je crois.
Besnard, oui.
Mais
tout
je pense à Défense.
J'avais Besnard
et
Besnard. Voilà. Donc pardon pour lui, Éric Besnard. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous. Alors
merci
avant d'aller
vous.
Plus loin, j'aimerais qu'on écoute un extrait direct de la bande-annonce Le goût des merveilles.
va? Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital?
Non, je ne bouge pas.
Vous pouvez pas rester là?
Si je ne bouge pas, je reste là.
Vous appelez comment?
Pierre, je m'appelle Pierre.
Vous voulez que je vous soigne? Vous voulez pas que je vous touche? C'est pas très pratique.
Paul? Pierre, pas Paul. J'aime pas Paul.
Non, Paul, c'est moi.
J'aime pas.
Il est différent, non?
Il est honnête, fiable, fidèle, et il ne veut de mal à personne. En effet, il est différent de la plupart des gens. Quand il aime, il pince. Il vit les choses beaucoup plus intensément que vous et moi.
Vous pouvez pas rester. Vous me connaissez pas.
Si, je vous connais. Vous êtes têtu, bordélique, blessé, joli.
Moi, je pense que t'es amoureux de ma mère.
Et voilà, c'était un extrait de la bande-annonce de Du goût des merveilles, réalisé par Éric Bénard. Donc,
oui, bravo.
Alors, ce film, c'est une histoire, c'est l'histoire d'un amour, comme le chantait Dalida, entre un jeune homme atteint du syndrome d'Asperger et une jeune arboricultrice, je vais y arriver, Virginie Efira, qui a perdu son mari et qui tente de faire vivre son exploitation avec ses deux enfants. Est-ce que vous diriez que c'est une histoire d'amour improbable?
Sûrement un petit peu, oui. En tout cas, c'est une histoire d'amour originale, puisque même le rapport à la séduction n'est pas le même, à la danse amoureuse qui existe entre ces deux personnages. Il n'y a pas de drague frontale comme ça. C'est une séduction qui opère par une autre, je dirais, une autre porte, ouais. Il entre dans sa vie autrement.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle, hein? Vous connaissiez quoi de l'autisme et plus particulièrement donc de ce syndrome qui n'est plus classifié Asperger comme on l'a appris
des grandes,
avec Joseph.
Pareil, des grandes lignes. C'était une idée que je me faisais. C'était voilà les clichés de Rainman et tout ça. Je connaissais mal, mais très très vite j'ai regardé des documentaires et j'ai découvert Joseph dans un documentaire hyper intéressant qui s'appelle Le cerveau d'Hugo. Joseph m'avait interpellé, je le trouvais passionnant et je trouve que voilà, je pense que les autistes aspiraient notamment une forme de séduction très très particulière et moi c'est ce qui m'a séduit dans le personnage.
C'est-à-dire
ce mélange de poésie,
de franchise,
de franchise et d'humour qu'ils peuvent avoir justement, alors parfois malgré eux dans cette franchise, dans le fait qu'il y a parfois il y a pas de second degré. Et puis c'est des personnages étonnants dans leur manière de se comporter avec l'autre, mais aussi la question du timing. Moi, je suis très sensible à ça, dans les comédies, de savoir de quand est-ce qu'on répond à bonjour ou à voilà.
Vous voulez dire du phrasé,
du phrasé,
du tempo,
et du tempo, ouais. Et qui, moi, c'est ce qui m'a séduit dans le scénario d'Éric, c'est tout ça, la poésie, la drôlerie du personnage.
Joseph Chovanec, vous êtes d'accord avec ce que dit Benjamin Laverne?
Merci Benjamin, c'est très gentil. En effet, les gens autistes peuvent paraître bizarres, mais vu d'un point de vue autistique, ce sont les gens non autistes qui sont bizarres. Donc on est chacun différent de l'autre et on a, je crois, à se nourrir mutuellement de nos différences.
Benjamin, vous avez aussi rencontré une psychologue, il me semble,
oui,
pour la préparation de ce film. Qu'est-ce que vous ne vouliez surtout pas dans ce film?
Ce qui est difficile, c'est justement d'essayer de... Je me suis dit, est-ce qu'ils se ressemblent tous? Est-ce qu'il faut définir? Est-ce qu'il y a une communauté d'attitudes? Est-ce que c'est vraiment la chose dont parlait Joseph juste avant moi? Et puis je me suis dit, est-ce qu'il faut que je sois le porte-parole? Il faut que je sois fidèle? Il faut que je sois... voilà, il ne faut pas que je heurte peut-être les autistes ou... Et très vite, le réalisateur m'a décomplexé par rapport à ça en me disant qu'il s'agissait de parler de quelqu'un d'ultra sensible et qui a aujourd'hui, dans un monde où tout le monde se carapace et où ferme les écoutilles pour être trop sensible aux horreurs qu'on entend, il s'agissait plutôt de parler de quelqu'un de différent dans son rapport aux autres et dans sa porosité au monde. Donc ça aurait pu ne pas être un autiste. Mais il se trouve que les Asperger... rassemblait beaucoup de ces attitudes-là et de cette sensibilité-là. Donc c'était un bon média, c'était un bon vecteur. Et donc de rencontrer la psychologue, c'était intéressant, moi, pour dans mon travail d'acteur, de l'écouter parler des autistes dont elle s'occupait, d'une communauté d'attitudes quand même qui existe, malgré tout, dans la manière de regarder l'autre, le rapport au toucher, de la distance du corps de l'autre, une manière de se tenir, par exemple, ou d'un parallélisme des membres, de petits tics comme ça qu'on pouvait construire. Donc ça, j'ai un peu fait mon marché en rencontrant cette dame passionnante.
Joseph Chovanec, est-ce que vous avez vu le film? Vous m'avez dit que oui, donc je ne vais pas faire semblant de ne pas connaître la réponse.
Oui.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
Ah, vous savez, d'une part, je tiens à remercier le réalisateur de s'intéresser à la thématique de l'autisme. Et je crois qu'on voit véritablement dans le film à quel point, en intégrant une dimension handicap ou différence, les films deviennent plus intéressants, quoi. Parce que, pardonnez de le dire un peu brutalement, je trouve que les films qui sortent d'habitude sont inintéressants au possible. C'est toujours les mêmes éléments. On a très vite fait le tour, hein, des deux, trois éléments de base qui font le cinéma en général. Mais en intégrant une dimension de différence humaine, on obtient tout de suite des films beaucoup plus riches. Et dans le cas du film Le Goût des Merveilles, j'ai été frappé par le côté réaliste, parfois hyper réaliste, notamment au début du personnage ou des personnages en général. Et je pense que c'est cet aspect-là réaliste qui, je l'espère, permettra au film de supplanter Rain Man dans l'imaginaire collectif un peu lié à l'autisme. Et ce réalisme, il est dû à quoi? Tout simplement parce que le réalisateur et son équipe, Benjamin aussi, ont découvert l'autisme, ont pris la peine, le temps de découvrir l'univers un peu de l'autistan, hein, de ce pays bizarre-là. Et je pense qu'on pourrait le généraliser. Découvrir les gens autistes, c'est passer de bons moments, voyez-vous.
Benjamin Laverne, juste, vous avez craint le regard des autres, à commencer par celui des autistes Asperger en faisant ce film?
Craint, c'est peut-être un peu fort, non? Je m'en suis inquiété, oui. Et c'était assez intéressant aussi d'entendre Joseph sur le fait que oui, c'est une rencontre improbable, parce qu'a priori, les autistes se rencontrent ensemble et parce qu'ils se reconnaissent. Et c'est vrai que le personnage de Virginie est très différent du mien. Et là, ce qui est beau, c'est la différence des deux, mais je pense que la reconnaissance, elle est dans le regard que l'un porte sur l'autre quand même. Ils ont quelque chose en commun. Et moi, je crois beaucoup à cette idée qu'en amour, on se reconnaît. Donc à la fois, ils sont très différents, puis à la fois, dans l'œil, ils ont quelque chose, une espèce de nostalgie qu'ils ont en commun, et ça que je trouve très très beau. Après, le réalisateur filme beaucoup le regard. Donc il m'a dit, voilà, on voit évidemment que les autistes se reconnaîtront pas, peut-être tous pas, mais c'est pas grave, parce qu'ils sont tous de toute façon différent. Donc
ça, de toute façon, il n'y a pas un film où tout le monde se reconnaît.
On peut prendre cette distance-là. Oui.
Si vous le permettez, le personnage de Louise, donc l'actrice...
Virginie Efira.
Voilà, tout à fait.
Votre amoureuse.
Alors, elle n'est pas autiste, mais elle a quelques petits aspects qui peuvent être intéressants d'un point de vue autistique. Par exemple,
comme
son
quoi?
Métier. Elle est arboricultrice. À la rigueur, ça pourrait être un métier pour Benjamin, pardon, donc pour notre camarade. Autiste. D'autre part, elle a quand même une naïveté, non, je ne t'y trouvais pas.
Oui, c'est vrai.
Elle a une gentillesse un peu naïve, hein. Et c'est, elle pourrait faire partie un peu de ces gens qui ne sont pas autistes, mais qui ont une prédisposition, une sensibilité.
Qui sont compatibles.
Compatibles, autistocompatibles, comme on dit parfois. Et donc, le film est très intéressant parce que ce n'est pas réellement une rencontre entre autistes et non-autistes. C'est plus fin que ce là, je pense. C'est un peu une balade, un peu une exploration dans les différentes facettes des personnalités humaines, autistes ou non autistes.
Et ça s'appelle Le Goût des Merveilles et c'est en salle aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? On attend vos témoignages, vos réactions, vos questions sur la page Facebook de l'émission via Twitter hashtag P2CE. Mais d'abord, on écoute Bad Boys d'Alain Souchon et Laurent Voulzy sur Europe 1.
Marion Ruggieri sur Europe 1, il n'y en a pas deux comme elle.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Et tous les jours, juste avant 16h sur Europe 1, c'est Il n'y en a pas deux comme vous. Toutes vos questions, toutes vos réactions, ça se passe sur Twitter avec le hashtag P2CE et sur la page Facebook Il n'y en a pas deux comme elle. C'est avec vous Marion et avec vos invités.
Et comme tous les jours à 15h50, c'est la séquence Il n'y en a pas deux comme vous, avec vos questions et vos réactions. Je commence par Jean qui nous dit « Joseph, comment expliquez-vous la passion et parfois même la haine qui oppose des défenseurs de telle ou telle méthode pour venir en aide aux enfants autistes ?» Par exemple, j'imagine qu'il fait la référence à la méthode ABBA.
Ça, je dirais, ça c'est une question à poser à différents patrons qui proposent tel ou tel médicament ou autre truc, et c'est un enjeu de sous, hein. Les gens autistes entre eux ne se disputent pas du tout sur ces sujets-là. D'ailleurs, en général, ils se disputent moins que les gens non autistes, hein. D'un point de vue autistique, ce n'est pas un problème, hein. Et d'ailleurs, vous savez, il n'y a que peut-être en France que que l'autisme demeure un sujet controversé. Dans le reste du monde, on a une approche beaucoup plus consensuelle et beaucoup plus apaisée hein, par rapport à l'autisme.
Une autre question de René Morin. Est-il possible, selon vous, cher Joseph, d'être atteint du syndrome Asperger et de ne jamais le savoir ?
Bien sûr, c'est même malheureusement le cas de beaucoup d'adultes autistes que l'on labellise par exemple SDF ou loser. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Parfois, certains sont diagnostiqués schizophrènes, certains sont sous camisole chimique, comme ça a été mon cas pendant des années. Ou pour les femmes avec autisme, on les labellise hystériques ou autre chose. Et donc oui, hélas, l'ignorance est fréquente. Hein.
Fabienne nous dit, diriez-vous qu'il est possible d'apprendre à aimer ? Autrement dit, est-ce que l'amour, ça s'apprend, cher Joseph ? Et après, je vous poserai aussi la question, Benjamin.
Ah, ce Benjamin,
vous avez 10 minutes.
C'est une meilleure réponse. Mais je pense qu'en tout cas, ce qui s'apprend, c'est de devenir humain. On ne devient pas humain par des raisons biologiques liées à la naissance. Non, je pense que c'est un lent et patient apprentissage. Et c'est peut-être un peu aussi l'autisme qui peut nous aider à montrer que ce devenir humain est beaucoup plus riche et beaucoup plus subtil que ce que l'on croit. Il y a plusieurs façons d'être humain et pas une seule.
Benjamin.
Moi je crois que l'amour à la fois ça s'impose et ça s'apprend absolument pas. On tombe amoureux comme on dit et on est mal barré ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas le message du film c'est que ce qui est beau dans l'aventure amoureuse c'est d'essayer. Mais quitte à se tromper, que la tentative elle est belle et l'envie d'essayer raconte beaucoup l'amour je trouve. Et notre personnage de Virginie Efira va essayer de rencontrer cet autre et je trouve que c'est la plus belle preuve d'amour. Que ça marche ou pas après, dans le couple, ça c'est une autre histoire.
José nous dit, vous parlez de thérapie par le voyage, donc ça s'adresse à vous Joseph. Pensez-vous que c'est valable pour toutes les pathologies ?
Et oui, et notamment, cher José, pour les pathologies non autistiques. Les personnes qui souffrent de troubles non autistiques devraient justement fréquenter le lointain, le voyage. Et je suis convaincu que quand on est en voyage, c'est soi-même que l'on découvre. C'est la fameuse phrase du poète Victor Segalen, le voyage au bout du monde n'est en vérité qu'un voyage au fond de soi. Quoi. Et je pense que nos sociétés contemporaines sont malades, entre autres, de se fermer de plus en plus, de ne pas savoir ou vouloir accepter l'autre. En tout cas, pour ma modeste part, quand je suis dans une culture lointaine, je ne suis plus autiste. Hein. Je suis considéré comme l'occidental, honorable visiteur, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Hein.
C'était une question de point de vue.
Voilà. Et c'est aussi un peu pour cela que je pense que dans le lointain, qu'il soit en Chine ou dans l'Autistan, on peut se trouver soi-même.
Et puis deux petites questions qui m'ont fait sourire pour terminer. Fabricio nous dit, vous dites Joseph qu'en France les autistes sont invisibles. Comment expliquez-vous que vous soyez tout sauf invisible ? Qu'est-ce qui vous différencie ?
Ah, je ne sais pas. Vous savez, quand je suis à la boulangerie, angoissé, hyper stressé, en faisant la queue, je pense que il n'y a rien, je dirais, à part justement cette appréhension qui me distingue. Pour ma part, je fais depuis une dizaine d'années à peu près office de saltimbanque dans l'autisme. Tous les jours, à droite, à gauche, il y a des événements sur l'autisme auxquels je participe. C'est difficile, mais il faut que quelqu'un le fasse, hein, voyez-vous. L'autisme est une cause encore en devenir, en ce sens que la société n'a pas pris conscience que l'autisme, c'était important.
Message bien reçu. Joseph Chovanec, merci encore d'avoir été
merci
avec
à
nous.
Vous
publiez De l'amour en autistan et c'est aux éditions Plomb. Et puis on vous retrouve bien sûr chez Sophie Larmoyer.
Comme on dit, mon capatillage. Au revoir. soir.
Et comme on dit chez moi, toi toi, bonne chance. Vous êtes tous les dimanches à 11h40 précise chez Sophie Larmoyer dans les Carnets du Monde. Benjamin Laverne, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce très beau film qui est Le Goût des Merveilles, réalisé par Éric Bénard et qui sort en salle aujourd'hui même avec Virginie Efira. À très bientôt, j'espère. On se retrouve nous demain de 3 à 4. Il n'y en a pas deux comme elle. D'ici là, je vous souhaite un très bon après-midi avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous.